branchez vos oreilles sur Radio Neurone et vous saurez tout sur le cerveau.
Radio Occitania,
Radio Campus, Canal Sud
et Radio Mon Pays.
Retrouvez-nous sur notre blog
http://radiocerveau.overblog.com.
De notre environnement, donc à sentir, à toucher, à voir, à entendre. Ça sert à diriger nos gestes, nos mouvements, et ça sert aussi à retenir des informations. Donc ça, vous l'avez tous dit.
Rencontrer des chercheurs pour découvrir les sciences, apprendre à partager ces nouvelles connaissances à la radio. La radio comme outil d'éducation aux médias. Découvrir son cerveau pour comprendre le monde et les autres. Radio Neurone. Radio Neurone est un projet mené de janvier à mars 2013 par les associations d'éducation populaire Les Chemins Buissonniers et Gudule et Galipette en amont et pendant la semaine du cerveau qui se tenait à Toulouse. L'idée, amener l'outil radio dans deux établissements scolaires toulousains, le collège Stendhal et l'école élémentaire d'Auriac, afin de réaliser avec les élèves une émission sur le cerveau, les amenant à réfléchir sur les thèmes de la plasticité cérébrale et du bilinguisme. Pour cela, ils ont rencontré deux doctorantes, Charlotte Bezzina, chercheuse au CRCA, et Émilie Massa, doctorante au laboratoire Octogone et bénévole pour l'association Incognue. Ils ont également interviewé Bernard Frances, universitaire et chercheur au CRCA. Les élèves se sont ainsi initiés aux techniques de la radio, de la préparation de l'interview jusqu'au montage, et ils ont produit collectivement l'émission radio que vous allez écouter. Via sa diffusion sur les 5 radios associatives partenaires, Canal Sud, Radio Mon Pays, Campus FM, FMR et Radio Occitania, et sur notre blog radiocerveau.overblog.com, ils ont construit une réflexion commune sur un sujet qu'ils ne connaissaient pas afin de transmettre ces nouveaux savoirs à tous. Nous vous emmenons à la découverte de votre cerveau avec Radio Neurone.
Nous sommes les élèves de 4e du collège Stendhal.
Nous sommes les élèves de CM2
de l'école Sylvain Auriac
de Toulouse.
Vous êtes à l'écoute de Radio Neurone. Aujourd'hui, nous accueillons un invité.
Bonjour, alors je m'appelle Bernard Frances et je suis professeur à l'université Paul Sabatier. Et mon travail, c'est d'enseigner le fonctionnement du cerveau, c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Et puis, quand on est professeur à l'université, on fait aussi de la recherche. Et donc, je fais de la recherche sur la mémoire et sur l'évolution de la mémoire chez les personnes âgées, quand on vieillit. Voilà.
Est-ce que le cerveau grandit quand on grandit ?
Oui. Ça, c'est facile comme réponse. Hein.
Le neurone a-t-il une couleur ?
Non. Alors, oui et non. Il y a certaines régions du cerveau où les neurones ont une couleur. Par exemple, on parle dans le cerveau de la substance noire parce que les neurones dans cette région, ils contiennent de la mélanine. La mélanine, c'est la même chose qui fait que la peau, elle est plus ou moins foncée. Ceux qui n'ont pas trop de mélanine, ils ont une peau très blanche. Et ceux qui ont beaucoup de mélanine, ils ont une peau plus marron. Donc, c'est pareil dans le cerveau. Il y a certains neurones contiennent de la mélanine, ils peuvent être noirs. Il existe aussi quelques neurones qui sont rouges et quelques neurones qui sont bleus. Mais sinon, la majorité des neurones n'ont pas de couleur.
Le cerveau se repose-t-il quand on dort ?
Au contraire. Le cerveau travaille beaucoup plus pendant la nuit que pendant la journée. Alors, En fait, le cerveau, pendant la nuit, il va mettre en ordre toutes les informations que tu as reçues dans la journée et il va aider à fabriquer ta mémoire. Un des points les plus importants, si on veut avoir une bonne mémoire, c'est de bien dormir. Il faut passer une bonne nuit parce que le cerveau, il va revivre tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, il va beaucoup travailler pendant la nuit, plus que dans la journée. Et ça va permettre après de stocker les informations, de bien les mettre dans l'ordre, de trier entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc en fait, une bonne mémoire, ça commence par une bonne nuit de sommeil.
Notre mémoire peut-elle être saturée ?
Théoriquement, non. Théoriquement, non. Alors après, ça va dépendre si on est fatigué, si on est malade ou autre. Mais pour une personne, disons une personne jeune et en bonne santé, en tout cas à votre âge, non. Vous pouvez stocker beaucoup de choses en mémoire, surtout à votre âge. Surtout que vous allez grandir, donc votre cerveau va grandir, donc vous aurez encore plus de place pour les stocker.
Pourquoi on retient certaines choses et pas d'autres ?
Alors, le cerveau, il fait un tri. Pendant la nuit, le cerveau, il va trier. Il va dire, aujourd'hui, j'ai vécu ça, ça et ça, et il y avait ça qui était important, je vais le retenir. Alors, ça peut être important parce que tu y as accordé beaucoup d'attention. Tu étais très concentré à ce moment-là. Donc, le cerveau, il dit, on était très concentré, donc c'est important, je vais le stocker. Ça peut être parce que la maîtresse, elle te dit, apprenez telle poésie, et du coup, tu vas mieux te rappeler de la poésie parce qu'on te l'a dit. Et ça peut être aussi parce que c'est important pour toi, parce que ça te fait plaisir, parce que ça te fait de la peine, parce que c'est quelque chose qui est associé à une émotion pour toi. Donc ces trois raisons font que tu vas te souvenir d'un événement plutôt qu'un autre. Alors attention, parfois le cerveau, il fait sa sélection, c'est peut-être pas toujours celle que tu aurais aimée. Le cerveau aussi, il va dire, il était très concentré à ce moment-là, ça fonctionnait bien, donc c'est important, il faut que je stocke. Peut-être que toi, si tu avais dû à choisir, tu aurais fait un autre choix. Mais bon.
La mémoire fonctionne-t-elle comme un stock ?
Oui, mais la mémoire, elle fonctionne comme un stock qui est tout le temps renouvelé, et qu'on est aussi capable de remettre à jour. Imaginons que tu as été récemment à un anniversaire d'une copine ou d'un copain, tu vas à cet anniversaire, et puis 8 jours après, tu t'en rappelles. Donc évidemment, c'est un événement important, c'était sympathique, etc. Donc c'est un événement que tu as gardé dans ta mémoire. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, tu vas t'en rappeler. Et quand tu vas t'en rappeler, en fait, tu es capable de modifier un petit peu cette mémoire ou de mettre l'attention sur un événement particulier de cet anniversaire. Et du coup, tu vas la restocker un peu différente. Et chaque fois que tu vas t'en rappeler, tu vas un petit peu la modifier. Donc, en fait, ta mémoire, elle n'est pas stockée de manière... un événement, il n'est pas stocké dans ta mémoire de manière qui ne changera jamais. Chaque fois que tu vas t'en rappeler, tu vas un petit peu le modifier. Et il y a même des choses qu'on appelle des faux souvenirs, c'est-à-dire à force de le modifier, on finit par réinventer complètement. C'est-à-dire quand tu te rappelleras de cet anniversaire dans 3 ou 4 ans, peut-être que ce dont tu te rappelleras, ça n'aura pas en fait existé. C'est ce qu'on appelle un faux souvenir. Donc tu vois, c'est pas stocké de manière définitive. Ça peut être modifié au fur et à mesure.
Pourquoi on ne se souvient plus de ce qu'on a fait ou vécu quand on était bébé ?
C'est une bonne question. Alors, c'est vrai, on oublie la plupart du temps ces souvenirs de jusqu'à l'âge de 1 ou 2 ans. Alors peut-être que, je suis pas sûr de la réponse, des fois on ne sait pas tout quand on est un, même quand on est un professeur. Mais peut-être que le cerveau n'est pas complètement terminé, hein, jusqu'à l'âge de 2 ans. Et du coup, il y a d'autres priorités, c'est-à-dire le cerveau, il faut qu'il apprenne comment on marche, comment on mange, comment on fait plein de choses. Et donc le stockage dans la mémoire, ça viendra un peu plus tard, parce que le cerveau, il est occupé à autre chose. C'est mon hypothèse, hein, je ne suis pas sûr.
Pourquoi certaines personnes ont des aptitudes dans certains domaines et pas dans d'autres ?
C'est une bonne question. On ne le sait pas vraiment. Alors, on peut imaginer que pendant le développement du bébé dans le ventre de la maman, ou parce que les parents ont transmis certains gènes à leurs enfants, certaines régions du cerveau peuvent être un peu plus développées dans le cerveau de certaines personnes. Et d'autres régions du cerveau un peu moins. On connaît par exemple une maladie qui est l'autisme, où certaines personnes peuvent être capables de lire l'annuaire et de se rappeler de tous les noms et de tous les numéros de téléphone. Mais si cette région du cerveau est très développée chez ces personnes-là, par contre, ils sont pas capables de faire plein d'autres choses. Donc, moi, je pense que c'est lié au développement du cerveau dans le ventre de la maman, qui fait que certaines régions vont mieux se développer que d'autres, en particulier quand il y a des petites maladies au niveau de la maman ou du bébé.
Branchez vos oreilles sur Radio Neuro et vous saurez tout sur le cerveau.
Mais on va voir ce qui est plus particulièrement au cœur du cerveau, ce que vous savez déjà être les neurones. Donc, dans cette petite partie grise là à l'extérieur, il y a des neurones qui ressemblent à ça. Donc les neurones, c'est tous ces petits points là et toutes ces branches. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils sont tous entremêlés. Donc ça, c'est un neurone tout seul. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ?
Oui.
À des racines, une plante. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Si on le met à l'envers, on a l'impression qu'on a les racines, les troncs, les branches et les feuilles. Mais la particularité, c'est que ces neurones qui ressemblent à des arbres, au lieu d'être plantés les uns à côté des autres, alors ils sont plantés les uns à côté des autres, entre guillemets, mais ils sont aussi ils sont connectés les uns aux autres, en fait. C'est-à-dire que les petites feuilles ici, elles vont avoir un lien avec les racines d'un autre neurone, et pareil ici, et ainsi de suite. Vous allez avoir des chaînes de neurones, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des messages qui passent d'un neurone à l'autre. C'est comme la sève d'un arbre qui va des racines jusqu'aux branches, jusqu'aux feuilles. Ben là, c'est pareil, c'est un message qui circule depuis les racines jusqu'aux branches et qui va être passé au prochain. Et donc, cette chaîne de neurones, on va dire que ça fait un chemin, en fait. Et il faut savoir que chaque chaîne de neurones va être utilisée pour une fonction ou une pensée. Quand vous pensez « tiens, je suis joyeux aujourd'hui », c'est une chaîne de neurones qui va fonctionner. Quand je dis qu'il va fonctionner, c'est-à-dire qu'ils vont se passer les messages les uns aux autres.
Comment évoluent les neurones dans le développement de l'enfant ?
Alors, ils grandissent. C'est-à-dire, tu as vu tout à l'heure, un neurone, c'est une espèce de, comme une pieuvre, il y a une espèce de boule où il y a le noyau, donc la fabrication des protéines, des éléments du neurone. Et puis après, il y a plein de tentacules et qui vont permettre de communiquer avec d'autres neurones dans d'autres régions du cerveau. Et bien, tout simplement, le neurone il va grandir et il va fabriquer davantage de tentacules. Et puis, donc, il va permettre de mieux communiquer. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'embryon se développe, donc au fur et à mesure des mois de grossesse, le nombre de neurones et le nombre de connexions, de tentacules qui vont aller toucher d'autres neurones, vont être de plus en plus importants. Donc, il y a davantage de neurones au fur et à mesure que l'embryon grandit, mais aussi il y a davantage de tentacules, de connexions, et donc au fur et à mesure, les neurones sont de plus en plus efficaces, et voilà. Mais c'est pas fini à la naissance, ça continue pendant toute l'enfance et même chez l'adulte.
Les neurones grandissent-ils quand le cerveau grandit ?
Oui. Tu sais quel est le plus gros, le plus long neurone connu ? C'est un neurone chez un calamar. Tu vois ce que c'est un calamar ?
Oui.
C'est comme une sèche. Et donc, il y a des calamars, ils ont un neurone qui part de leur cerveau et qui va jusqu'au bout de l'individu, le même. Donc, il peut faire plusieurs centimètres et parfois même jusqu'à un mètre, ce neurone. Parce que nous, on n'a pas ça. Toi, quand tu as un neurone qui va donner une information, par exemple, à ton pied, en fait, il y a des relais. Il y a une région du cerveau, une petite, quelques millimètres, puis ça donne l'information à un autre neurone de quelques millimètres, etc., jusqu'à ton pied. Alors que chez le calamar, il y a un neurone qui part du cerveau jusqu'au bout. Et qui peut être, c'est pour les calamars les plus grands, les géants, qu'on appelle les calamars géants, il peut faire un mètre, ce neurone.
Oui.
Et oui, c'est grand. Hein.
Quand on vieillit, les neurones deviennent-ils faibles, moins efficaces ?
Oui. D'abord, quand on vieillit, on perd des neurones. À partir de l'âge de 20 ans à peu près, on commence à perdre quelques neurones. Et plus on vieillit, plus on en perd. Donc déjà, ça c'est un élément qui fait que on perd de l'efficacité. Parce que plus il y a de neurones, plus le cerveau il marche vite. Plus il est efficace, et moins il y en a, évidemment, et moins il marche comme il faut. Donc ça, c'est un premier élément. Mais le deuxième élément, c'est que un neurone, même s'il n'est pas perdu, même s'il ne meurt pas, effectivement, quand il vieillit, il peut être moins efficace. Donc oui, quand on vieillit, les neurones sont moins nombreux, et pour certaines, sont moins efficaces. Mais il y a un point positif, c'est que toute sa vie, dans la région qui fabrique la mémoire, toute sa vie, on est capable de fabriquer des nouveaux neurones. Même des personnes les plus vieilles, qui ont 100 ans, elles fabriquent quand même de nouveaux neurones tous les jours. Alors toi, tu en fabriqueras un peu plus qu'elles, mais elles en fabriquent aussi. Donc ça, c'est un point positif, c'est que le cerveau, il a privilégié la zone de la mémoire. Ce qui fait qu'à tous les âges de la vie, si on n'est pas malade, on peut fabriquer une nouvelle mémoire. Un bébé, un enfant, un jeune adulte, et même un papy, une mamie, il peut continuer à avoir une nouvelle mémoire. S'il entend un air de musique ou quelque chose, même à 100 ans, et bien il peut s'en rappeler.
Quand on a la maladie d'Alzheimer, peut-on continuer à stocker des informations dans la mémoire ?
Oui, on continue à stocker des informations, mais on les perd au fur et à mesure, c'est-à-dire on va les stocker pendant quelques secondes et puis après elles vont être perdues. Par contre, la mémoire qui fonctionne, c'est la mémoire des événements très anciens. Un papy ou une mamie qui a la maladie d'Alzheimer, il va se rappeler très bien de son enfance et par contre il va oublier ce qu'il a fait 5 minutes avant. Mais il va stocker, mais ça va pas se garder, ça va être détruit petit à petit.
Pourquoi on oublie quand on ne pratique plus ?
Parce que la mémoire, ça fonctionne à condition d'être très concentré, d'être très attentif, et ça fonctionne sur un principe de répétition. Donc, quand tu dois apprendre une leçon, une poésie, une chanson, il faut que tu te la répètes plusieurs fois pour pouvoir la mettre dans ta mémoire. C'est le système, c'est la répétition qui fait que tu vas la mettre dans ta mémoire.
Imaginez que vous êtes chacun un neurone. Si vous pressez la main de votre voisin plus fort et plus vite, l'information va passer plus vite et va être plus forte. Et bien vous voyez, pour chaque action, on emprunte un chemin de neurones différent. Et si une action est répétée plusieurs fois, vous allez vous serrer plus fort la main, donc le message va être plus fort et va passer plus rapidement de neurone en neurone. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire. Quand vous pensez à la mémoire, vous vous dites c'est juste que j'ai retenu une information, par exemple une poésie, par exemple une table de multiplication. Mais par exemple, quand vous faites du basket pour la première fois, on vous montre un geste et on vous dit voilà, c'est comme ça qu'il faut dribbler, c'est comme ça qu'il faut mettre un panier. Au fur et à mesure, si vous refaites le geste plusieurs fois, le chemin de neurones qui va être dans lequel les messages vont passer, ils vont fonctionner plusieurs fois. À chaque fois que vous allez dribbler, à chaque fois que vous allez faire le même mouvement, vous allez avoir cette connexion entre les neurones qui va se renforcer et le message qui va passer plus vite. Et c'est comme ça, en fait, que vous mémorisez le fait de dribbler. Est-ce que vous avez compris ? Vous avez des questions par rapport à ça ?
Non. Imaginez juste tout à l'heure, là, au début, quand il fallait qu'on vous serre la main, on était un peu maladroit, on ne savait pas trop, d'accord ? Et après, petit à petit, en s'entraînant, on a compris ce qu'il fallait faire et on a réussi à le faire et on a même réussi à le faire plus vite. Et à la fin, ça se faisait tout seul. C'est exactement la
c'est
même
exactement
chose
ce qui se passe
pour, par exemple, quand vous dribblez, d'accord ? Et c'est aussi exactement la même chose, mais quand vous apprenez votre leçon, ou au début, on ne sait pas, hein, c'est ce que vous disiez votre maîtresse, et à force de le lire ou de le répéter, mais petit à petit, ça vient tout seul et on le sait.
Voilà, c'est la répétition du geste qui va faire qu'à force, vous allez le faire de plus en plus vite et de mieux en mieux.
Voilà. Et en fait, c'est juste vos neurones qui vont passer l'information de plus en plus vite. Et le message passé sera de plus en plus fort. Voilà.
Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, je vais retenir une chanson dans ma tête et le lendemain, quand je vais me réveiller, eh bien, je vais plus l'avoir.
Alors, peut-être tu l'auras plus au réveil, mais dans la journée, elle peut revenir ou tu peux t'en rappeler. Si cette chanson, elle était importante pour toi, tu dois t'en rappeler. Alors, peut-être pas au réveil, mais dans la journée ou le lendemain ou 8 jours après, elle va revenir. Tu l'as quelque part à garder. Alors, il y avait aussi une question qui est intéressante.
Est-ce qu'il y a un remède ?
Non. Il n'y a pas de médicaments ou de remèdes qui permettent d'avoir une bonne mémoire. Le seul moyen pour avoir une bonne mémoire, et ça se décide à votre âge et puis encore pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire à l'enfance, à l'adolescence, c'est de la faire travailler. Donc plus on fait travailler sa mémoire quand on est jeune, et plus elle sera de bonne qualité, d'une part. Et aussi faire travailler son corps, faire de la gymnastique, faire du sport. C'est un élément très important pour fabriquer une bonne mémoire. Donc, faites travailler votre mémoire et faites de la gymnastique ou du sport.
Pourquoi on fait volontairement une bêtise alors qu'on sait qu'il ne faut pas la faire ?
Oula ! Je ne sais pas vraiment te répondre. Je ne sais pas te répondre. C'est vrai pourtant. Hein. C'est vrai, par exemple, je fais parfois des cours sur les gens qui consomment des drogues. Et les gens qui consomment les drogues, ou qui fument, ou qui boivent de l'alcool, ils savent bien que c'est pas bon pour l'organisme, mais ils le font quand même. Hein. Mais quand on étudie leur cerveau, on comprend pas pourquoi. Donc, si je me reste sur mon métier, c'est-à-dire sur l'étude du fonctionnement du cerveau, moi, je ne sais pas te répondre.
Si on perd l'usage de la vue ou d'un sens quand on est âgé, notre cerveau s'adapte-t-il aussi bien ?
Alors, il s'adapte moins bien que chez une personne jeune, mais oui, il va s'adapter. On a pu le voir tout à l'heure parce qu'on a eu la chance d'aller au cerveaurium. Il y a des régions du cerveau qui sont spécialisées pour la vue, pour le langage, pour le mouvement. Et quand un sens disparaît, par exemple quand on perd la vue, cette région du cerveau, elle peut s'adapter et faire un autre travail. Donc par exemple, les personnes vont être capables d'entendre mieux ou capables de percevoir les choses mieux, un meilleur sens du toucher. Alors, chez des personnes jeunes, ça s'adapte très bien. Chez des personnes âgées, ça marche aussi, mais c'est un peu moins efficace.
on reçoit un choc émotionnel, est-ce que cela a une conséquence sur les neurones, le cerveau?
Oui. Oui. Alors, quand on veut mettre, quand on vit différents événements, ce qu'on va le mieux stocker dans la mémoire, ce dont on va le mieux se rappeler, c'est ceux qui sont associés à un choc émotionnel. Ce choc émotionnel, il peut être agréable, positif. Tu te rappelleras le jour où tu vas te marier ou le jour où tu auras un enfant, etc. Il peut être aussi négatif, c'est-à-dire un événement difficile dans ta vie, tu vas aussi t'en rappeler mieux. Oui, un choc, une émotion, c'est, ça aide à garder en mémoire, et souvent ça aide à garder en mémoire toute sa vie.
Pourquoi on retient des choses qui font peur?
Ah. Alors, figure-toi que c'est une très bonne question, et par exemple, c'est une question qui est beaucoup étudiée. Alors, par exemple, tu sais qu'il peut y avoir des guerres, donc il y a des soldats qui vont aller sur des opérations militaires où il y a parfois des choses très difficiles, hein, où il peut y avoir des blessés, des morts ou beaucoup de bruit, enfin ça peut être très traumatisant. Et donc ces soldats, quand ils reviennent, ils ont une maladie qui fait que pendant la nuit notamment, toutes les nuits, cet événement, ça va leur revenir dans la mémoire et ça finit par bouleverser leur vie et ils sont vraiment malades et il faut les soigner. Et donc effectivement, un événement très brutal, comme par exemple un soldat qui va à une guerre, ça peut être retenu. Alors, le cerveau, il fait quand même une sélection, et parfois, il se débrouille pour que un événement qui soit très douloureux, très difficile, très pénible, on n'arrive pas comme il faut à s'en rappeler. On dit, bon, je vais essayer de me rappeler de ce qui s'est passé, et puis ça bloque un moment. Alors, on ne sait pas comment le cerveau se débrouille pour ça, mais parfois ça arrive. Mais effectivement, il y a des maladies qui sont liées au fait que des gens, ils vont revivre toutes les nuits, par exemple, un événement qui a été douloureux pour eux. Et alors, pourquoi? On le disait au début, hein, l'émotion, c'est un élément très important pour stocker quelque chose dans la mémoire. Et évidemment, quand tu as quelque chose de très difficile qui apparaît, ça provoque une forte émotion et du coup, tu t'en rappelles.
Merci. Pourquoi des fois on a des trous de mémoire?
C'est une bonne question. Alors, il y a des maladies de la mémoire qui s'appellent des amnésies. Ces maladies, alors ces amnésies, ça peut être très grave, c'est-à-dire on peut oublier presque tout, comme dans la maladie d'Alzheimer. Et parfois, effectivement, on peut avoir des amnésies localisées. Et, alors moi, par exemple, je suis très mauvais pour me rappeler des noms des gens. Mais très mauvais, c'est-à-dire faut vraiment que je vois quelqu'un 10 fois pour me rappeler de son nom, autrement j'y arriverai pas. Alors ça, je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà.
Branchez vos oreilles sur Radio Neuron et vous saurez tout sur le cerveau.
Radio Occitania,
Radio Campus, Canal Sud
et Radio Mon País.
Retrouvez-nous sur notre blog
http://radiocerveau.overblog.com.
Dans l'univers.
Bonjour, bienvenue sur Radio Neurone. On accueille Émilie Massa.
Bonjour.
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 Alors, on a des questions pour vous.
Oui.
Qui êtes-vous et quel est votre métier ?
Donc, comme tu viens de le dire, donc je m'appelle Émilie Massa. Je fais un doctorat en sciences du langage dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Octogone et qui est situé à l'université du Mirail. Et donc, moi, je travaille un petit peu sur les langues et le cerveau. Et notamment, j'essaye de comprendre si le fait de parler plusieurs langues tout au long de notre vie aide notre cerveau à mieux vieillir. Donc voilà, c'est un petit peu le sujet de mes recherches.
Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire être bilingue ?
Alors, être bilingue, c'est une question, c'est une bonne question, c'est une question assez compliquée. On pense souvent que être bilingue, c'est le fait en fait d'apprendre deux langues dès la naissance, quand on a un papa qui parle une langue et une maman qui parle une autre langue, et donc de maîtriser très très bien ces deux langues. En fait, d'un point de vue scientifique, être bilingue, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puisqu'en fait, on va considérer que le fait d'être bilingue se caractérise par la connaissance de deux langues. Alors du coup, c'est une définition qui est beaucoup plus vaste et ça peut intervenir dans beaucoup de contextes différents. Donc par exemple, je vous donne deux, trois exemples différents. On peut avoir appris sa langue maternelle, donc avec ses parents, puis ses parents déménagent et à l'âge de 3 ans, on se retrouve dans un autre pays et on doit apprendre une autre langue à l'école, par exemple. Et on va parler la langue maternelle à la maison et puis la deuxième langue à l'école. On peut aussi se retrouver dans des situations où on parle, par exemple, le trois quarts du temps une langue, par exemple, parce qu'on habite dans une grande ville et que c'est la langue officielle de cette grande ville. Et puis, de temps en temps, par exemple, c'est notamment le cas en Afrique ou en Asie, on va, par exemple, dans un petit village pour voir ses grands-parents et là, on parle, en fait, une autre langue, un dialecte. Ou alors, troisième cas, on peut avoir appris une langue maternelle, vivre dans un pays pendant 20 ans et puis émigrer à l'âge de 20 ans, 30 ans dans un autre pays pour trouver du travail et donc être confronté à l'apprentissage d'une autre langue. Et alors, on va beaucoup parler cette deuxième langue et on va plus trop parler sa langue maternelle. Dans tous ces cas-là, on considère ces personnes comme étant des personnes bilingues. Donc voilà, tu vois que ça, être bilingue, ça veut dire beaucoup de choses en fait.
Avant de rentrer un petit peu plus en détail là-dessus, je voulais vous demander s'il y en a parmi vous qui parlent d'autres langues à la maison. Qu'est-ce que tu parles comme langue ?
Le marocain.
Le marocain, alors.
L'arabe.
L'arabe dialectal marocain. L'arabe marocain. Mmh. Ok. Turc. Maori, oui.
L'arabe
algérien. Arabe algérien. Arabe algérien. Arabe libanais.
Malgache.
Vas-y donc.
Arabe
tunisien. Arabe tunisien.
Albanais,
oui.
Portugal,
arabe
algérien,
allemand,
arabe algérien marocain,
oui.
Les deux,
hein?
Non, en fait,
espagnol,
le français,
arabe algérien, arabe marocain.
Vas-y, non, je sais pas si vous vous rendez compte que. Ça fait 10 ans, entre nous, on a fait un sacré tour du monde, là.
Est-ce qu'il y a plus de gens bilingues ou monolingues dans le monde ?
Ah, alors, il faut savoir que déjà sur 193 États dans le monde, il y a 45 États qui ont officiellement au minimum deux langues. Donc c'est vraiment l'État qui dit, voilà, par exemple, en Inde, il y a l'hindi et l'anglais qui sont les deux langues officielles de l'Inde. Donc ça représente déjà 1,4 milliard de la population qui est confrontée au fait de parler deux langues presque quotidiennement. Mais il y a aussi beaucoup de pays dans lesquels il y a plusieurs langues qui peuvent cohabiter, qui sont pas reconnues officiellement. Et donc en fait, si on fait la somme de toutes ces personnes dans le monde qui sont confrontées tous les jours au fait de parler plusieurs langues, en fait, on dépasse complètement la moitié de la population mondiale. Donc en fait, on peut dire que dans le monde, il y a plus de personnes qui parlent plusieurs langues que de personnes qui parlent qu'une seule langue. Donc, en d'autres termes, il y a plus de bilingues dans le monde que de monolingues.
Quel est le continent où l'on parle le plus de langues différentes ?
Alors, le premier continent, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est un continent auquel on pense pas forcément, c'est l'Océanie. Parce qu'en fait, en Océanie, il y a un tout petit pays qui s'appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui, à lui seul, compte plus de 800 langues. Donc, ça fait beaucoup pour un petit pays. Ensuite, on a l'Afrique, l'Asie. Ensuite, on a l'Amérique. Et nous, en Europe, on est les petits derniers puisque c'est nous qui parlons le moins de langues. Voilà.
Et en France, on pourrait penser qu'on compte qu'une langue. En fait, on en compte 25. Parce que c'est tout simplement, si vous allez parler, par exemple, à un breton, qui parle le breton, je peux vous assurer que vous allez avoir de grosses difficultés à le comprendre. Donc on compte le breton comme une langue.
Et les autres langues ?
Alors les autres langues, il y a l'occitan, il y a le provençal, il y a plein de langues. Voilà, je ne les ai pas toutes en tête. Le basque, etc.
Marseille.
Si j'apprends deux langues, est-ce que je vais me tromper plus facilement ?
Alors, non, pas forcément. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent qu'en fait, même des enfants tout petits qui ont appris deux langues en même temps, quand par exemple le papa parle une langue et la maman parle une autre langue, ben, ces études elles ont montré qu'à partir de l'âge de 3 ans, les enfants ils font très bien la différence en fait entre les deux langues et mélangent plus du tout les deux langues. Donc, si on apprend et on parle deux langues dans des contextes différents, il n'y a pas beaucoup de risques, en fait, de mélanger les langues entre elles. Mais parfois, ça peut arriver dans certains cas. Par exemple, si on se trouve en présence d'un parent qui parle les deux mêmes langues que nous. Je vous donne un exemple. Si tu parles le français et le turc, et que ton père ou ta mère parlent aussi le français et le turc, c'est possible de te retrouver dans des situations où tu vas mélanger les deux langues, mais en fait, il faut pas que ce soit, c'est pas du tout un phénomène négatif, ça veut pas dire que tu fais pas la différence entre les deux langues, c'est juste que, tout simplement, c'est plus facile pour notre cerveau, parce que notre cerveau sait très bien que la personne qu'on a en face, elle parle aussi les mêmes langues que nous. Donc, notre cerveau comprend très bien que ben, la personne, elle va comprendre ce qu'on lui dit, même si on mélange les langues. Et donc, comme le but de la communication, c'est toujours de parler, on va dire, de manière fluide, pour que ce soit le plus facile possible, ben, quand on trouve pas un mot dans une langue, ben, on va le remplacer par un mot de l'autre langue. Comme on sait que la personne en face de nous, elle comprend très bien, ben, c'est ce qui fait que on peut mélanger, en fait, les deux langues. Mais voilà, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Et on peut très bien, dans d'autres situations, faire la différence entre les langues. Donc, non, y a pas de risque, pas vraiment de risque de mélanger les langues entre elles.
D'accord. Si on apprend 5 ou encore plus de langues, est-ce qu'on va prendre plus de temps pour trouver un mot ?
Alors oui, ça peut arriver en fait parce que il faut comprendre que dans notre cerveau, les langues elles sont représentées dans des petits sous-systèmes, dans des petits tiroirs en fait. Et donc ben, quand on cherche un mot, ben, il faut déjà commencer par ouvrir le bon tiroir, donc le tiroir de la bonne langue, et puis après ben, passer en revue tous les mots qu'il y a dans ce tiroir. Donc ben, plus on parle de langues, plus on connaît de mots, plus on peut mettre du temps pour trouver certains mots. Mais en fait, ça dépend beaucoup de la fréquence d'utilisation des langues. Plus on parle une langue souvent, et plus ça va être facile de trouver un mot dans cette langue, et moins on la parle, moins on s'entraîne à la parler, et plus on va mettre du temps pour trouver un mot. Voilà. Alors, je vous ai préparé une petite expérience. C'est une petite expérience, vous allez voir. Vous avez des images, en fait, qui vont défiler. Et vous allez avoir des images bleues et des images rouges. Donc, quand c'est bleu, il faut donner le nom en français. Et quand c'est rouge, il faut donner le nom en anglais. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y en a un parmi vous
qui seraient d'accord pour se prêter à l'expérience. Donc il y a des noms qu'il faut que tu donnes en français et en anglais.
Yes.
Bougie. Champignon. Dog. Casa.
House.
House. Parapluie. Cat. Papillon. C'est dans l'œil. Coke.
Vache.
Cerise. Lapin.
Si on est bilingue ou plurilingue, est-ce que notre cerveau travaille et vieillit mieux?
Alors, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui sont menées dans ce domaine et qui montreraient qu'en effet, il y a une influence des langues sur notre cerveau et notamment sur une fonction qui est très importante chez l'être humain qui s'appelle le système exécutif. Alors le système exécutif, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est située juste à l'arrière en fait de notre front, une fonction qui est préfrontale et qui est très utile dans la vie quotidienne. C'est ce qui va nous permettre de nous adapter à des nouvelles situations. C'est ce qui va nous permettre de passer d'une action à une autre. C'est ce qui va nous permettre de ne pas faire une action automatique si cela n'est pas nécessaire. Et on s'est rendu compte que les personnes qui parlaient plusieurs langues, quand on leur demande de faire des petits tests avec justement ces actions à faire, elles ont souvent des meilleurs résultats que les personnes monolingues. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'on pense que le fait de parler plusieurs langues tout au long de sa vie, ça fait comme un petit entraînement en fait pour notre cerveau. C'est un peu le cours de fitness, le cours de sport pour notre cerveau. Et plus on entraîne son cerveau à faire une action, et plus il devient performant, il devient meilleur en fait dans cette action. Un petit peu comme si tu t'entraînais à courir le 100 mètres, dans un an tu seras meilleur à courir le 100 mètres que celui qui s'est jamais entraîné. Donc on pense en fait que le fait de parler plusieurs langues, en effet, ça a une influence sur notre cerveau et que quand on vieillit, qu'on perd un petit peu l'habitude de faire ces actions, plus on les a entraînées et plus c'est facile, moins on va les perdre, moins ces fonctions vont se dégrader. Donc on pense en effet que ça aide notre cerveau à mieux vieillir.
Est-ce que c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est motivé?
Alors, est-ce que c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est motivé? Alors oui, dans tous les cas, c'est plus facile d'apprendre quelque chose quand on est motivé. Pas forcément une langue, ça peut être aussi une autre matière. Alors en fait, il y a plusieurs types de motivation. On peut être motivé pour apprendre une langue parce qu'on sait qu'on a un examen à la fin et que dans tous les cas, si on veut réussir son examen, il va falloir travailler. Mais on peut aussi trouver une motivation qui nous fasse plaisir, par exemple. Et quand on trouve une motivation qui nous fait plaisir, on se rend compte que généralement, on a de meilleurs résultats pour apprendre les langues que si on a une motivation pour laquelle on se sent un petit peu obligé, en fait, de faire les choses. Donc, dans tous les cas, oui, c'est très important d'être motivé, d'avoir sa propre motivation pour apprendre une langue. Ça donne vraiment de meilleurs résultats.
Mais si je n'aime pas une langue, comment faire pour me motiver à l'apprendre?
Ah, alors, déjà, il faut comprendre que ça peut arriver. On a tous des préférences de certaines matières par rapport à d'autres, d'une langue par rapport à une autre. Déjà, il faut comprendre que si on n'aime pas une langue ou si on se sent un petit peu nul dans une langue, faut comprendre déjà dans quelle partie de notre apprentissage on se sent nul. C'est compliqué d'apprendre une langue parce que il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est-à-dire que non seulement faut parler avec les bons mots, trouver les bonnes règles grammaticales, les employer dans les bons contextes et en plus parler avec un bon accent. Tout ça, ça fait beaucoup de choses quand même. Donc déjà, il faut essayer de trouver un petit peu ses points forts et ses points faibles. Donc on peut par exemple avoir des difficultés pour comprendre certaines règles grammaticales, mais avoir un très bon accent. Donc ça, c'est bien aussi de le mettre en avant. Ensuite, il faut se trouver une motivation qui est personnelle et qui peut être un petit peu immédiate. C'est-à-dire que souvent, on vous dit « Ah, faut apprendre une langue étrangère, c'est important, plus tard tu trouveras du travail ». Bon, sauf que quand on est en sixième ou en cinquième, tout ça, c'est un petit peu loin pour nous de se dire ça va m'aider à trouver du travail. Mais par contre, il y a plein de situations dans lesquelles vous pouvez trouver du plaisir à parler cette langue. Par exemple, si t'as envie de chanter et que t'aimes bien une chanteuse en particulier, je sais pas, par exemple Rihanna. Et donc t'aimerais bien chanter ces chansons, mais tu comprends pas les paroles. Ben là, pour le coup, apprendre l'anglais, ça peut vraiment t'aider en fait à traduire ces chansons pour pouvoir, par exemple, mieux les interpréter. Donc tu peux avoir le travail que tu fais en classe et à la maison, un petit travail dans lequel tu vas traduire les chansons, etc. Ça, c'est ta motivation à toi, c'est ce qui te fait plaisir. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas s'il y en a, voilà, certains qui jouent aux jeux vidéo. S'il y en a qui ont envie de jouer en réseau, par exemple, et qui ont envie de jouer avec des personnes qui se trouvent pas forcément en France, pour pouvoir communiquer avec eux, il va falloir parler anglais. Donc, là, la motivation, ça va être aussi d'apprendre pour pouvoir dialoguer avec ces personnes-là dans le jeu, pouvoir parler en anglais avec eux. Enfin, il y a une dernière chose qui est très importante quand on apprend une langue, quand on apprend quelque chose en général, c'est d'identifier ses stratégies d'apprentissage. Alors, une stratégie d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour apprendre quelque chose. Et on est tous différents par rapport à nos stratégies d'apprentissage. Il y a des personnes qui voient un mot écrit au tableau, ils retiennent. Il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Il y a des personnes qui ont besoin de se mettre debout dans leur chambre et puis marcher, réciter et en faire une chanson, etc. Une fois qu'on a trouvé sa propre stratégie d'apprentissage, mais il faut vraiment la mettre en application, même si elle vous semble un peu bizarre ou un peu bête, c'est pas du tout le cas. Donc ça peut vraiment nous aider en fait pour apprendre les langues et se motiver et avoir de meilleurs résultats.
Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Émilie Massa.
Merci, avec plaisir.
Et les auditeurs, je vous invite à rester branchés sur Radio Neurone.
Branchez vos oreilles sur Radio Neurone et vous saurez tout sur le cerveau.
Merci à Caroline Bertelli, Ethel Bourgeois, Eva Wemberger, Charlotte Bézina, Émilie Massa, Bernard Frances, aux différents acteurs de la Semaine du Cerveau, aux radios partenaires, à toute l'équipe des Chemins Buissonniers et à nos jeunes reporters en herbe. Les musiques libres utilisées pour l'habillage sonore de cette émission sont de Fujazaki avec un morceau intitulé Poets Dying et un morceau de Elias Schwertfeger. Cette émission a été réalisée dans le cadre de l'atelier Radio Girafe proposé par l'association Gudule et Galipette. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de modification.
Et tu sais que les girafes, ça n'existe pas.
Ah bon ?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe. Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.